Radio Spirale. Linguiste et écrivain, Robert Berouet-Auriol est l'auteur de plusieurs recueils de poésie, dont Oraya d'Encre le Champ, En haute rumeur des siècles et Poèmes du Décours. Stéphane Martelly s'entretenait avec lui lors d'une rencontre d'écrivains du CRILC qui se tenait à la librairie Olivieri en novembre 2010.
Alors, bonsoir. Nous vous accueillons aujourd'hui à cet autre lundi du CRILC avec Robert Berouet-Auriol, que nous avons la joie d'accueillir avec nous ce soir. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté de faire cette entrevue et de pouvoir lui poser toutes les questions que j'ai trouvées sur son œuvre. D'abord, je voudrais un peu vous faire un petit repérage biographique. Originaire d'Haïti, formé à l'Université du Québec à Montréal, Robert Berouet-Auriol est linguiste, spécialiste en aménagement linguistique et en communications institutionnelles. À ce titre, il a œuvré 14 ans à l'Office de la langue française du Québec, où il a notamment été responsable du programme de coopération terminolinguistique entre l'OLF et les universités canadiennes, programme qui consistait à implanter la Banque de terminologie du Québec, BTQ, aujourd'hui Grand Dictionnaire terminologique, et sa méthodologie de recherche, dans sa institution. En 1987, sur mandat du gouvernement du Québec et de l'Office de la langue française, il a conceptualisé et dirigé une mission auprès de la Faculté de linguistique appliquée en Haïti, qui a abouti à la conclusion d'un accord majeur de coopération linguistique entre le Québec et Haïti. Au cours des années 90, pendant 7 ans, Robert Berouet-Auriol a enseigné la linguistique et la communication à la Faculté de linguistique appliquée de l'Université d'État d'Haïti, puis à l'Université Quisqueya de Port-au-Prince. À la Faculté de linguistique appliquée, il a introduit pour la première fois en Haïti l'enseignement de la terminologie bilingue et les bases de l'aménagement linguistique en contexte franco-créolophone, tout en contribuant à la mise sur pied de la secrétaire d'État à l'alphabétisation. Alors, c'est aussi évidemment un poète et un lecteur critique qui a notamment travaillé sur l'œuvre de Franck Étienne. Il a collaboré aux revues Vice Versa, Mobius, Dérive, Europe, Saprifage, Revue Noire, Interculturelle de Lecce, La Maison de la Poésie, Calac, Québec Studies, Calalou, etc., etc., sans oublier Chemin Critique et Conjonction de Port-au-Prince. Il est également l'auteur, avec Robert Fournier, de la première étude théorique relative au Conseil exploratoire d'écriture migrante et métisse au Québec, un concept qui a fait fortune et qui a été amplement étudié par la suite dans les universités canadiennes et européennes à travers des thèses, des mémoires, etc., etc. Il a produit des articles sur Émile Olivier, Pierre Neveu, Dany Aferrière, Jean-Claude Char. Dans le domaine de la poésie, Robert Berouet-Auriol a publié Lettres urbaines, suivi de Le dire à soi en 87. Il a publié aussi Toraya d'Encre le Champ au Sidika en 2005. En 2009, il a livré En haute rumeur des siècles. Et finalement, en 2010, nous avons eu Poèmes du Décours, qui lui a valu le prix de poésie du livre insulaire à Ouessant en France. Il est traduit en plusieurs langues et donc c'est avec grand plaisir que nous l'accueillons ce soir.
Bon, j'imagine que cette présentation un petit peu hasardeuse m'aidera à gérer mon stress, d'autant plus que mon mentor est là.
Il le regarde derrière lui.
Le grand poète Anthony Phelps, que je salue. Oui. Merci d'être venu ce soir.
Mais en fait, ce qui frappe tout de suite, c'est que c'est ce parcours important entre réflexion critique et puis création qui interpelle. Mais avant tout, j'aurais quelques questions complémentaires sur cette biographie. Pouvez-vous nous parler de la ville dont vous venez ?
Bon, les écrivains, c'est connu, sont les spécialistes d'une espèce de grande pulsion narcissique.
Oui.
Alors, il y en a qui prétendent qu'ils sont nés à Athènes ou à Tokyo. Moi, je prétends que je suis né à Jacmel, puisque mes parents, côté maternel Berouet, côté paternel Auriol, sont de Jacmel. Alors, je prétends, dans ma mythologie personnelle et le culte de mes pulsions narcissiques, je prétends que je suis né à Jacmel. Mais je suis, hélas, né à Port-au-Prince, l'une des plus minable ville de d'Haïti.
Attention.
Merci.
Mais les années de formation ont eu lieu au Québec, si j'ai bien compris.
Oui, je garde un souvenir très vraiment post-traumatique de mes années de l'école secondaire. J'étais vraiment crétin en maths, en physique, en chimie. Alors là, vraiment. Et je suis arrivé relativement jeune au Québec, où j'ai terminé mes études collégiales au cégep. D'ailleurs, il y a un médecin là, dans la salle, qui était avec moi, et Joël Desrosiers et moi, à Brébeuf, en deuxième année de cégep. Là, voilà. Ben voilà. J'écrivais de la poésie. Et par la suite, bon, je me suis mis à faire de la linguistique avec beaucoup, beaucoup de passion. C'est encore une passion présente. Voilà.
Et finalement, cette vie professionnelle entre le Québec et Haïti, et entre l'écriture poétique et réflexion critique, finalement, vous êtes un homme un peu de l'entre-deux, un homme de langage, mais de l'entre-deux qui cherchait un peu un lieu à occuper.
Je vais dire tout de suite que je me méfie beaucoup du linguiste que je suis. Il y a environ 20 ans, quand je me suis mis à écrire de la poésie avec la grande complicité de mon ami d'enfance, Joël Desrosiers, il fallait absolument qu'on se tienne très loin des dictionnaires, des lexiques, des vocabulaires spécialisés pour que l'aventure poétique se situe essentiellement dans l'espace de la poésie, dans l'espace de la langue, dans l'espace du langage et dans l'espace de la langue. Je fais bien la distinction, hein. Bon, je vais avouer que j'ai étudié très longtemps les dictionnaires, les plus jaunis de la bibliothèque familiale, et j'ai jamais cessé finalement de prendre langue au sens noble, bien sûr, avec cette vieille passion.
C'est ce qui me frappe un peu dans ce premier parcours biographique, en fait, c'est cette nécessité profonde que j'aperçois derrière l'œuvre qui est d'aménager un territoire. Et c'est pour ça un petit peu que j'ai proposé cette conversation sous l'enseigne de cette question de la migrance dans la langue et du territoire de la poésie, parce qu'il me semble qu'il y a là comme une sorte de topos linguistique, poétique, migratoire, voyager par la langue, que ce soit au moyen de la poésie ou par l'étude et l'ébranlement des identités linguistiques et des lieux géographiques. Il m'a semblé qu'il y avait là quelque chose de votre travail qui méritait d'être aperçu.
Si tu me permets de me défendre un petit peu, parce que la charge est très lourde.
Oh oui, c'est pas fini, ce n'est que le début.
Une question énorme qu'il faudrait poser à Anthony Phelps ou bien à cette grande chanteuse qui est là. Qu'est-ce que tu entends par migrance? Si tu réponds à ma question, je répondrai à la tienne.
Ah, mais cette question, je la réserve pour la suite, parce que justement, je vais revenir là-dessus. On va longuement discuter de cette question de la migrance.
En toi qui fais une thèse de doctorat en littérature à l'UDM, qu'est-ce que tu entends par migrance? Donne-moi un petit coup de main.
Personne pour vous sauver. Alors, de cette conversation que je propose, ce parcours, je vais proposer à la fois un parcours chronologique et thématique de cette œuvre-là. Et mes questions seront toujours des propositions, pas de sentence arrêtée.
Oui, mais je suis frappé par le fait que tu aies choisi le terme migrance. Moi, ça me frappe beaucoup. Hein.
Oui, c'est très important. Mais
parce que je pense que c'est peut-être évident pour ceux qui s'intéressent à la littérature. Il y a eu au cours des années 80, au cours des années 90, une forte irruption d'écrivains de l'ailleurs dans le champ littéraire québécois qui, de manière générale, étaient des écrivains de l'exil. Moi, j'ai plutôt choisi d'être un écrivain de la langue. Un écrivain de la migrance, dans la mesure où la migrance est une interpellation paradoxale des identités. Moi, j'ai dit tout de suite, à partir du moment où je me suis lancé dans cette aventure improbable et infinie qu'est la poésie, je me suis dit tout de suite qu'il fallait interpeller et mettre au poteau le culte des identités, qui a été trop longtemps le piège des écritures issues de la Caraïbe, issues des Antilles. Un piège des identités, comme quoi il fallait que la littérature soit toujours prisonnière d'un espace mental, d'un espace d'écriture où il fallait dire l'être au monde, où il fallait dire une espèce de discours salvateur, le pays laissé, le pays fantasmé, il fallait le reconstruire à travers l'écriture, à travers ce que la littérature peut, de manière très légitime, porter d'espérance. Non, moi je me suis dit, j'écris, point. Comme dit Roland Barthes, verbe intransitif, au transitif, je m'en fous, j'écris. Je n'ai pas de quête identitaire à mener à travers mon écriture. J'écris.
C'est curieux quand même que cette question de la migrance soulève pour toi tout de suite cette question de l'identitaire.
Ah mais tout à fait, puisque la migrance est cette espèce de tension extraterritoriale, supranationale, où l'identité est éclatée complètement. L'expérience que j'ai vécue de manière très très profonde avec mes amis du magazine Vice Versa en est l'élément le plus parlant. L'identité non plus comme espèce de ghetto repli sur soi, mais l'identité comme fenêtre ouverte sur soi et vers l'autre.
Oui, quand même, identité et migrance, mais toujours ce concept d'aménagement sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Parce qu'il me semble que quand même, il y a cette confrontation certainement, bien certainement, avec le nationalisme, le discours nationaliste, le discours identitaire cloîtré. Mais cette notion d'aménagement, donc qui prend des morceaux et qui les replace, me semble particulièrement intéressante dans ce voyage que tu proposes.
Oui, parce que...
Mais nous y reviendrons.
Oui, je sais, parce que tu me fais penser à trois choses en même temps. C'est une manière de piéger le... Oh là là, Anthony, au secours. Il dit rien. Bon, non. Non, c'est important. C'est important dans la mesure où j'ai grandi dans un espace qui s'appelle, qui s'appelait dans un premier temps Haïti. Mes années de formation, cégep, université, la vie professionnelle, j'ai grandi dans un espace culturel qui s'appelle le Québec, en pleine mutation identitaire, mutation linguistique, mutation esthétique, mutation dans la manière d'aimer, etc. Et voici que le Québec auquel j'appartiens aujourd'hui n'est plus ce Québec d'une quête d'identité. Alors, je m'en réjouis. Mon identité première, je l'ai trouvée et je l'ai fixée une fois pour toutes dans l'écriture. Qu'est-ce que ce rapport à la langue, qu'est-ce que ce rapport à l'écriture m'apporte dans la construction de cet individu que je suis? Mes réponses sont fragmentaires, très partielles et surtout inabouties. Sinon, je ne ferai pas un autre poème demain matin.
C'est comme ça, c'est un rapport toujours, c'est un parcours toujours à recommencer, effectivement, de la langue qui ne permet pas, heureusement, cet aboutissement. Mais revenons aux années 80 et ton travail dans les institutions québécoises dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est là qu'apparaît aussi cette expression d'écriture migrante. D'abord, était-il important pour toi d'investir ces institutions? Est-ce que tu peux nous décrire cette période effervescente où on a l'impression que, justement, la culture québécoise est en pleine redéfinition, en pleine mutation symbolique dans l'ère post-nationaliste. Les choses ne sont pas figées, tout semble possible. C'est le canon lui-même qui est en jeu quand cette notion d'écriture migrante apparaît, et c'est sous ta plume qu'elle apparaît.
Oui, ça me fait un peu de peine pour ceux qui sont un petit peu moins jeunes que moi, qui vivent dans un Québec relativement aseptisé de 2010, relativement normalisé, etc. Moi, j'ai vécu mes années cégep et mes années d'université dans un Québec en ébullition. Alors là, en ébullition, c'était pas seulement la lutte contre la dictature des Duvaliers qui occupait un certain... qui occupait notre... je sais pas, nos rêves. C'était également l'idée qu'il fallait se trouver à travers ce que la langue porte de novateur, ce que la langue peut porter de novateur. Bon. Et dans ce contexte, j'ai... très fortement investi ce qu'on appelle le processus d'aménagement linguistique du Québec. J'ai vécu très profondément, je suis très très marqué par la francisation du Québec à laquelle j'ai participé pendant 14 ans. Et dans ce contexte-là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Anthony Fabs publie un roman, personne n'en parle. Ah bon, tiens. Gérard Étienne, dans sa lumineuse folie, publie un roman et personne n'en parle. je sais pas, Jean Genassin, l'un des meilleurs spécialistes de la littérature québécoise d'origine haïtienne, publie une anthologie sur les écrivains du Québec d'origine haïtienne et personne n'en parle. Vice Versa fait un travail monumental, on en parle un petit peu, ça dérange. Sauf que Vice Versa, bon, est produit par des Européens ou des descendants d'Européens, c'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on vient de certains Sud, produit par les... Enfin, issus des cales négrières. Bon, je ne ferai pas de polémique quand même.
Non.
Je me suis posé la question, je me suis dit, Robert Giraud, mon éditeur qui est prof de littérature à Sherbrooke, il a étudié ce qu'on appelle l'horizon d'attente de la littérature. Il a interpellé un certain nombre de paramètres, les symboles, ce qu'on appelle le roman national, le conte national, la parole identitaire. Et voilà qu'il y a un certain nombre d'écrivains produisant en français, et j'insiste là-dessus, produisant en français au Québec, et puis personne n'en parle. Il y a un problème. Jean-Claude s'en souvient sûrement. Ça va Jean-Claude ? Super. Alors, je me suis dit, il faut quand même porter cette interrogation, cette réflexion sur la place publique. Alors, j'ai produit un texte qui s'appelle « Les écritures migrantes et métisses au Québec », que tout le monde cite la plupart du temps sans l'avoir lu, puisqu'il a été... publié dans une revue universitaire
américaine,
dans la mesure où mes petits copains de l'Université Laval, de l'Université de Montréal n'étaient pas très chauds pour publier un texte relativement subversif. Les écritures migrantes et métisses. Tu me permets une petite parenthèse de 2 secondes?
Oh oui.
Alors, il y avait à l'Université de Sherbrooke un superbe bonhomme qui s'appelait Ronald Sutherland, le frère de l'acteur. C'est Sutherland qui porte un nom anglophone. Non, rien d'anglophone. C'était des Italos, comme Jean-Claude Gasselin. Bon. Sauf que ils ont été adoptés par des anglophones. Ils ont grandi dans les cantons de l'Est, etc. Et Sutherland a fait une étude pour le secrétariat d'État du Canada, où il a recensé de manière systématique tout ce qui a été produit avant 1990 au Québec par des écrivains qui ne sont pas nés au Québec, mais qui ont produit des œuvres de fiction au Québec. Alors je suis parti de cette typologie, de cette taxinomie, pour produire une réflexion sur l'horizon d'attente des écrivains produisant au Québec, mais qui ne sont pas nés au Québec. C'était ce que j'ai appelé les écritures migrantes et métisses au Québec. Et, bon, ça fera plaisir sûrement aux nationalistes haïtiens. Les écrivains haïtiens étaient en tête de liste sur cette taxonomie. 175 productions fictionnelles, romans, poésies, essais sur 30 ans. Venaient en seconde ligne les écrivains d'origine italienne. Alors, j'ai pris la peine à ce moment-là, dans les années 90... de dire que c'était un concept exploratoire, le concept exploratoire des écritures migrantes au Québec. Dans le contexte de la francisation du Québec sous l'empire de la loi 101, dans le contexte où la question nationale était encore agitée au Québec. Bon. Je ferme cette trop longue phrase
en disant
que ce concept exploratoire a été accueilli, digéré et souvent perverti par un certain nombre d'académiciens, d'universitaires, etc. Ils en ont fait un tas de trucs auxquels j'avais jamais pensé. Moi, j'ai parlé dès le départ d'un microcorpus d'écriture migrante et métisse au Québec, faisant partie du contexte du corpus général de la littérature québécoise de langue française. Je n'ai jamais parlé de littérature migrante. Je n'ai jamais parlé d'un corpus à côté du corpus général de la littérature québécoise. Il y a eu toutes sortes de perversions. J'emploierai pas d'adjectifs impolis, mais je pense qu'il faut, il faudrait peut-être qu'on en discute un tout petit peu.
Oui.
Voilà.
On prendra le temps d'en parler. Tout ceci se passe, en fait, vers la fin des années 80. On est déjà en 86, 87. Et en 86, tu fais paraître aussi de la poésie. Tu fais paraître Lettres urbaines. C'est un recueil avec cette langue déjà ciselée qu'on apprendra à connaître et où on perçoit bien le travail très, très fin sur la langue, le travail très poussé sur la langue et cet arrêt aussi sur les mots qui est très important pour toi. Alors, est-ce que tu voudrais nous faire un peu de lecture? Parce qu'il est temps, il est temps qu'on commence à entendre un peu de poésie.
Oh, j'étais... Moi, je voulais bien dire des choses, mais...
Tu choisis ça.
Mais Robert Giraud, mon éditeur, vient d'arriver. Alors là, ça me... Je suis complètement stressé. Bon, je n'ai plus rien à dire, puisqu'il a tout dit, puisqu'il m'a publié. Ça va, toi?
Toi aussi, ça va bien. Oh,
c'est ça. J'allais dire stressé, mais bon.
C'est quand même amusant. Hein. Il y a 20 ans, j'ai rencontré Robert Giraud, et je lui ai proposé un manuscrit. Lettres urbaines. Et puis il m'a dit, ah, tu sais, bon, ça n'a pas l'air si bon que ça, il faut le travailler. Et je l'ai travaillé énormément dans le train entre Montréal et Toronto, puisqu'à l'époque, je donnais des séminaires de terminologie à l'Université York de Toronto. Ah, j'ai travaillé, mon Dieu, j'ai bossé. Mais ça, tu ne l'as pas su.
Bien supposé.
Conte de la liste simple.
Je lis une page ou deux.
Comme tu veux.
D'accord. Allegro de l'acier sur geste quotidien. Je ressuscite la dictée de l'iris en cale de conte, l'esquisse du roseau. Je ne vous connais point, madame. Dans ma grange d'argile, j'emprunte le murmure de vos pas. Étrangers au babil de la foule, étrangers l'un à l'autre, nos yeux, sel et sable. Tisse une note tamisée, un conte d'ici, précoce, fragile. Je ne vous connais point, madame. Mais du champ des mules, moi, humus nomade, je ravaude le conte de l'allée simple, les yeux rivés au soleil. Je dis amen, corps fourbu dans la ville, l'ébauche du roseau franchit l'uvé au rythme bavard de ma mémoire. Je ne vous connais point, madame. En semence de regard, je vous salue, vous, pleine de grâce, la démarche flux, reflux, quand j'ai dit l'obit du rêve.
Merci. La même année, si je ne me trompe, tu publies aussi Le jeu dissidence. Ce texte est très frappant pour moi parce que, en fait, nous sommes déjà presque à la fin des années 80 et bientôt tu vas partir pour Haïti. Ou si tu es déjà, le projet de départ doit être déjà formulé.
Pas vraiment, puisque j'ai décidé d'aller enseigner la linguistique en Haïti après avoir effectué cette mission de coopération en linguistique, en terminologie pour le gouvernement du Québec. Le texte s'appelle Dissidence jeu.
Celui-là?
Ah ben tiens, oui.
Ouais.
Dissidence ce jeu où j'inscrivais à la fois dans ma réflexion citoyenne et dans ma réflexion de poète une volonté de distance par rapport à l'île natale.
Oui.
Ce qui pour moi est extrêmement important. Je refuse de sombrer dans le folklore patriotard, à savoir que bon... je ne veux pas emprunter une langue doloriste. Haïti, machin, etc., l'île souffrante, etc. Non, j'ai un discours critique sur mon île d'origine, sur son histoire, et j'ai voulu inscrire ce discours critique dans ma poésie. Pour une fois que ma poésie, éventuellement, disait autre chose que le poème lui-même, dans le titre lui-même, La dissidence, j'inscrivais mon regard sur ma terre natale en termes de dissidence. Il dit, foutez-moi la paix, j'ai rien à foutre avec la première république noire du monde, etc. Non. Il faut aborder les rives de la modernité. Autrement dit, il faut un discours critique à échanger, à partager, et puis amené sur la place publique. Bon. Que la poésie, occasionnellement, soit le lieu de ce discours critique, ben.
C'est un texte intéressant parce qu'il est à la fois dans cet écart et puis dans ce mouvement de retour pour moi. C'est vraiment ce que je lui ai trouvé d'assez fascinant. Il y a un jeu qui prend place, qui pose une parole, qui va le constituer. C'est presque un acte de naissance poétique à un certain niveau. Mais en même temps, ce jeu est celui de la dissidence. Donc, c'est un texte qui te surprend quand même dans une transition, comme tu viens de l'expliquer, assez importante.
Oui, puisque moi, je dirais de la manière la plus simple que mon être poétique s'est formé au Québec. Mm-hmm. Je revendique mon appartenance poétique au Québec, mm-hmm. De la même manière que je revendique tout ce que mon pays d'origine m'a appris, tout ce que les aînés m'ont appris. Anthony Phelps, qui est présent, il le sait. Pour moi, Haïti est, comment dire, une vieille pute. Mais c'est ma pute à moi. Attention, c'est pas la pute du voisin. Une vieille pute, je l'adore. En même temps, je la déteste. Et sauf que quand je l'aime, elle m'aide à écrire un tout petit peu. Elle m'aide à écrire de la poésie dissidente. Mm. Tu veux que je lise un petit mot?
Oui, hein? Vas-y.
Ah ben justement, mon vieux copain d'enfance est là, qui a Joël Desrosiers, qui a lu les premières versions de ce texte, signait l'île chauve, y sont ses seins. Mémoire revive, ses percussions en haute lisse. Accoudée maritime ici, velage frisé, longe, lente mesure, le récitatif des marelles. Aérienne l'aube décibelle, matricielle fêlée, je vous salue, poète barbelé. En vous, l'encre palabreuse, au plus près des barreaux, salue et s'use à parole neuve. Dans l'alphabet du jour, l'eau gésine, ventriloque et froid. Je, migrante saltation pour durer. Ma flûte cassée refait le guet. Au tutoiement des rues. Salive rouillée, je fraude, trois fois passé là. Le voile des marèmes, abécédaire, une ville rumeur, port au prince, port au pute, une ville rumeur vacille.
Ce qu'on attend dans la lecture de ce texte-là, qu'on n'imagine pas tout de suite en le voyant, c'est toute cette rythmique finalement qui investit le poème, qui traverse un peu, qui traverse le texte, et là on a l'impression de retrouver quelque chose finalement qui appartient à ce territoire-là vers lequel tu vas, tout en te tenant un peu à distance.
Oui, mais j'appartiens à cette espèce d'école du risque d'écriture. Mm-hmm. Qui prétend et qui soutient avec Kristeva qu'il y a un inconscient du texte. Mm-hmm. Cet inconscient du texte, c'est ton corps, ta mémoire, ton histoire. J'appartiens aussi à cette école très rigoureuse et très exigeante que m'a apprise Anthony Phelps il y a 20 ans. Il m'a dit, écoute mon vieux, ton texte il est bon, tu le dis sur un tu le dis au magnétophone, tu le laisses mijoter 2 semaines, 3 semaines. Joël Desrosiers te dira ce qu'il en pense. Et tu reviens, tu l'écoutes. Est-ce que ce texte te parle? Au plan de la signifiance, au plan de sa polysémie. Anthony Phelps m'a dit, il y a 20 ans, écoute mon vieux, est-ce qu'il y a de la musique au sens malarméen, au sens rimbaldien de... Est-ce que ce texte est musiqué? Est-ce que ce texte t'emporte? Est-ce que ce texte va chercher ce qu'il y a de plus sensible chez toi? Il m'a dit, tu écoutes ton texte, s'il ne répond pas à ces critères, reprends reprends et reprends ton travail. Je l'ai écouté. Il est là, je lui rends hommage ce soir. Anthony, merci.
Pardon?
Ah. Non, mais j'ai...
Oui, oui.
Non, mais j'ai pas fini.
Je t'en prie.
Il y a aussi pour moi une extrême exigence de rigueur. Qu'est-ce qu'un poète comme moi aurait pu dire de nouveau, d'intéressant, d'inédit, après Saint John Perse, après Mallarmé, après Giraud qui est poète, après Joël Desrosiers, etc. Qu'est-ce que j'ai à dire? On a tous chanté l'amour, on a tous chanté la détresse, on a tous chanté l'inamitié, l'amitié, etc. Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce qui ferait que ma poésie, éventuellement, puisse intéresser un lecteur? C'est sûrement la manière de le dire. Et la manière de le dire, la manière de le dire a à faire avec, et ça on va revenir là-dessus si tu as l'impolitesse de me poser la question.
Tu vas voir, ça va s'aggraver.
La manière de le dire a à faire avec notre matière première, nous, poètes, nous, écrivains. Notre matière première, c'est la langue. Oui. C'est la langue. Nous sommes des sculpteurs, nous sommes des musiciens. C'est la langue, finalement. Et je me méfie, je suis vraiment désolé de le dire, s'il y a des profs de littérature ce soir, je me méfie des ateliers où l'on apprend à écrire, qui pullulent au Québec depuis trop longtemps. Je préfère les ateliers où l'on respire la langue. Je serai plus explicite un petit peu plus loin. Mais...
Parlons des années 90. Revenons à la terrible chronologie. Là, tu travailles dans des institutions haïtiennes cette fois-ci. Et en même temps, il y a la recherche d'une communauté d'écrivains. Tu parles de cette recherche du lieu de l'enfance dans une entrevue en 92 accordée à Paulette Richards de la revue Kalalou, où c'est traduit malheureusement. Et tu dis « I'm looking for a creative space that can inspire me more. And in this sense, the Caribbean space meets my expectations. It constitutes an environment which I feel is propitious for an opening through what I call the homeland, entre guillemets. The memory of childhood has a locus of writing. » Donc, le lieu de l'enfance. Tout à l'heure, tu as parlé de mythologie personnelle. Mais chaque fois, on a l'impression que c'est un lieu fabriqué, un lieu recréé. Mais qu'en même temps, cet espace-là, tu le recherchais pour trouver.
Oui, quand je suis parti enseigner la linguistique en Haïti, hein, dans les années 90, honnêtement, hein, je pense que je suis surtout parti à la recherche de fantasmes de l'enfance comme espace de création.
Oui.
Et puis je me suis retrouvé dans un pays parfaitement étranger, on me l'a dit tous les jours. Et c'était une expérience absolument enrichissante puisque j'ai appris finalement que j'appartenais à une autre île qui s'appelle Montréal, à laquelle on accède par 13 ponts et un tunnel, et surtout par la poésie.
Effectivement, tu ne publies pas beaucoup pendant ces années-là.
Non.
Et tu enseignes, par contre.
Oui, j'ai enseigné la linguistique, la communication, etc. etc. J'ai quand même amassé un certain matériel, mais ce n'est pas un pays où l'on peut produire dans la jubilation. C'est un pays où l'on réfléchit trop. Enfin, le psychiatre est là, il dira sûrement oui ou non, je suis raison. Mais c'est un pays qui interpelle trop les douleurs du présent. Et la poésie ne s'écrit pas seulement dans la douleur. Pour moi, la poésie est essentiellement un espace de jouissance de la langue.
Et donc, au début des années 2000, c'est le retour. Finalement, progressivement, le voyage n'est pas terminé, ou alors, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, il est ailleurs, il est dans la poésie. Le retour au Québec, c'est aussi le retour à la poésie.
Absolument, absolument. Je pense que j'ai emmagasiné quand même pas mal de choses pendant ces 7-8 ans que j'ai passé en Haïti. Et j'ai surtout emmagasiné des éléments de réflexion qui ont conforté mon sentiment premier que la poésie est d'abord une question de langue. Et la poésie est d'abord une question de rapport de soi à la langue. Comment vais-je construire mon propre projet poétique qui soit distinct de ce que des poètes autrement plus talentueux que moi ont fait auparavant. Et qu'est-ce que je peux apporter, moi, de manière singulière, qui sera ma petite musique. Et je pense que je commence un tout petit peu à la trouver, puisque j'ai osé aborder ce qu'on appelle la prose poétique.
Oui,
c'est la première fois, on va sûrement y arriver.
Oui, nous y arrivons.
J'ai pris conscience au Québec, il y a 5 ans, 6 ans, que la poésie avait quelque chose à dire, que la poésie pouvait raconter une histoire. Moi, alors là, j'ai découvert un continent.
Il y a cet autre texte-là, avant le texte dont tu parles, qui est vraiment passionnant et sur lequel nous allons nous attarder, qui est pour moi presque en parallèle avec le jeu Dissidence que tu avais lu des années 87. Et c'est celui-là, c'est Caraïbes Dissidence, un peu comme si ce talent simple, finalement, que tu écrivais dans les lettres urbaines et qui apparaissait un peu dans le jeu Dissidence, il avait fallu acheter le retour. Et donc le retour, pour moi, c'est ce parallèle un peu que je fais avec le premier texte.
Ah. Patrick.
Il se cache.
Patrick Poirier. Ah, il est parti. Non, je voulais dire que cette femme est dangereuse. Elle veut que je fasse des aveux.
Oui, passons aux aveux.
Je vais en faire un tout petit. J'ai écrit ce texte qui s'appelle Caraïbes Dissidence. Dans une certaine mesure, dans cette inscription, dans la dissidence par rapport à l'île natale, par rapport au discours massif, nationaliste, patriotard, etc. C'est aussi une dissidence par rapport à soi. Hurle, hurle. La lie vive en chaud de cale. Où le son muettement. Saline nos octaves à l'œil du fils, au fer les froids. D'ailleurs, le dépouille ragonne langue sourde, langue crépue et pure. Terre infante, en haute lisse, fleurant bon séride. Ta vaniteuse, mais clameur de légende, vaine puits d'étoiles dans le sommeil des larmes. Un long calendrier de feu, sans sel étranglé, se dédie, épileptique, s'abîme au sang. Rassemble ses osselets sur l'alphabet des paumes. Des siècles amènent. Vaine, vaine voile, vaine veuve. Écoteuse de mes lèvres, fille m'était que des caravelles, à la coulée des gésines, des chlores d'humeur. L'or ailé, la nudité de l'ardoise, l'or frais, un cru, respire de vierge, cogne, cocagne, hanche volubile au feulement de l'archet. Cogne, cocagne, lance à son aperture, furtive, crayeuse. Odorante saltation pour durer, figée, l'unique saison, ma muette volupté. Voici que matrique chevauche des ardoises offrandes, embrase, embrase salines épices, mes yeux tuent ici, là-bas. Là-bas, la longue défaite des dieux éteint, à fond de cale, perpétuelle ta trique, sa ferveur, s'introïte au chuchotement de l'aine.
C'est un texte très intéressant, effectivement, à mettre en parallèle avec le précédent, parce que dans ce texte-là, le jeu a presque disparu. Comme s'il s'était perdu dans ce parcours.
Tu dis le jeu J-E ou J-E ?
Le jeu J-E.
Ah oui, d'accord.
Le premier jeu.
D'accord.
Passons tout de suite à un autre rumeur des siècles, parce qu'il faudrait qu'on ait le temps de parler de d'autres choses encore. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce retour urgent et nécessaire à la poésie ? Ici, dans Autre rumeur des siècles, qui a été présentée comme une esthétique polyphonique, en rupture affirmée avec les canons attendus de la créolité et l'indigénisme antillais, au cœur de l'américanité francophone. Retour au Québec comme lieu de vie, mais retour aussi à Lille comme principal référent, étrangement.
Ah, tu parles sûrement de l'île de Montréal.
Là, je te... Oui, mais...
Je sais pas, je pense que j'ai été enrichi énormément enrichi par mon séjour sur cette île natale improbable. Où l'on m'a fait souvent comprendre que je n'étais pas de ce lieu que j'étais d'ailleurs. Ça a enrichi ma réflexion. Et c'est un retour à l'écriture où, je ne sais pas, quand on lit Saint John Perse et qu'il dit dans, je ne sais plus si c'est Amer ou dans le vent, j'écris pour exister, j'écris pour mieux vivre, enfin je le paraphrase un petit peu. J'ai réappris à vivre ce que je suis, autrement dit ce que j'adviens, en renouant avec la poésie. Après avoir accordé trop de temps à gérer le quotidien, l'essentiel, nos douleurs, mes douleurs, leurs douleurs, etc., je suis revenu à la poésie comme on dit en allemand, potomitant, c'est en créole, non ?
Oui.
Un potomitant. L'essentiel de mon articulation, de ma vision de la vie, c'est la poésie pour moi. Et j'en cause de temps en temps avec Joël Desrosiers. Il y a une éthique de la poésie. Oui. Il y a une esthétique de la poésie. Il y a un lieu de vie qui s'appelle la poésie, à partir de laquelle notre être au monde est signifiant, prend de la signifiance. Et je peux également dire que c'est la poésie qui humanise, dans une certaine mesure, mon métier de linguiste, qui est trop souvent trop technique, trop mécanique. Les dictionnaires ne sont pas des lieux de vie, les dictionnaires sont des musées. Les dictionnaires ne vivent qu'à partir du moment où ils sont investis par la poésie.
Effectivement. Mais en tout cas, le langage apparaît, encore une fois, très travaillé dans ce texte-là, mais aussi quelque chose d'autre qui commence à poindre et qui, à mon avis, va être vraiment complètement développé dans le recueil qui suit. C'est cette question de l'histoire dont on a un peu parlé. Mais l'histoire comme rumeur qui parcourt le texte sans être délimitée, qui se tisse à travers le texte. Et ça commence un peu dans Caraïbes Dissidence et ça se poursuit dans Autre Rumeur des Ciels. Est-ce que nous pourrions en entendre un petit bout avant d'en parler ?
Volontiers, oui.
Vas-y.
Qu'est-ce que tu as choisi ?
Oui, justement.
Ah, d'accord. Un texte que j'ai nommé Testamentaire, territoire du jeu. Et la plupart du temps, je trouve le titre du texte avant de trouver le texte. Bon. Ce qui peut être dangereux. Or, ton masque stellaire se dessine un ogre rituel de miroir conjugué, fardé, à cartographier les semelles du vent, six lieux rieuses, étranglées, embaumées d'astres sédatifs. Sur tes plaies hâtives, je dénoue de vives horloges des cycles braconniers, fringantes, à captieuse géométrie, dedans, un clos maritime, le corps du délit, où bouture ton vœu. Dans les veines précaires de la fauve, offerte, ouverte, misée, bradée, l'ami aux rutes vocales de l'encan, ta suave cicatrice, pour le pain béni du jour, pour les bourses gorgées de suc, drague à marée nue, paix, tribu, geôlier, la langue blessée par balle, en tes naufrages numéraires, sonnant, trébuchant, convulsive, tes trêves pubiennes, faites l'une faussaire, le corps du déni, où veillent tes raies, donc je te fauve. Voluptuaire baladine, recto verso, hilaire, tes funambules, tonsures, dandine, à l'échouage de la tour, dans l'extase convulsive des bouges, mise à qui pergagne, en poker de rentable nuitée. J'aime jusqu'au vol tragédifère du sperme, noctiluque cordé de luettes que conjuguent tes miroirs, muselés, ligotés, au tournis, tes aromates assermentés, étales, féerique pavane, à l'usufruit d'un fol manège, en trois, ma langue baguée de rêve, s'agenouille, mêmement, lentement, à prier cérémonial prébandé, et bateleur, et transitaire, ta croupe à valoir, maquille râle, rapine en fleurs, dans l'allégresse des litières, au tumulte halluciné de ta gorge, pour ta criée de venelle, mes paumes démunies, givre fêlure, émeute de moi en trois. Pépiante, Foranebuse, la dérive de tes scènes.
Cette idée de poésie comme un sédimentaire finalement, une idée de cumul de signification, cumul de sens, et en même temps de brouillage des limites qui me semble extrêmement intéressant. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive à une certaine maturité dans ce texte-là. Je voudrais que tu parles très brièvement, parce qu'il faut passer au dernier texte, mais à la collaboration avec Franck Etienne, parce que ça me semble une rencontre aussi un peu inattendue du point de vue de vos esthétiques, qui sont tellement différentes, mais en même temps, en dehors de ton travail critique sur lui, il me semble que c'est un rapprochement très intéressant.
Oui, je vais répondre en deux séquences.
Oui.
L'ami Émile Olivier, romancier monumental, il faut relire le roman qu'il a publié sur les copains d'en face, La Bruyère. Oui. Émile Olivier aimait dire que, bon, la littérature finalement est affaire de sédiments. Nous cultivons, nous assimilons des sédiments, et Kristeva, dans ses derniers textes, ne dit pas autre chose. Nous accumulons des sédiments qui, à un moment donné, vont paraître, vont sortir, vont s'exprimer. Dans une certaine mesure, on n'écrit rien de nouveau, on écrit des textes de l'autre, formulés par notre propre voix. J'écris du Mallarmé, j'écris du Rimbaud, j'écris du Magloire-Saint-Aude, à ma manière. J'écris L'homme rapaillé, à partir de ma mémoire insulaire, puisque j'appartiens à deux îles, j'appartiens à l'île d'Haïti et à l'île de Montréal. Ça, c'est une première séquence. J'ai eu la chance extraordinaire de fréquenter pendant mon séjour en Haïti un très grand poète dans les deux langues haïtiennes, le créole et le français. Franck Etienne, peintre, poète, quelqu'un d'extrêmement riche, y compris dans sa mégalomanie épouvantable et insupportable. C'est l'un des écrivains les plus mégalomanes et les plus narcissiques que je connaisse. Et encore là, il est génial.
Non, sans ironie. Quand même.
Sans ironie. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai énormément de respect, mais qui construit son texte à partir de ce mythe qu'il crée. Sa mythologie, il la vit. Alors, je pense que Franck Etienne ne sait pas très bien à quel moment, le matin, il est en mythologie ou l'après-midi dans sa vraie vie. Peu importe, il a écrit le premier roman de langue créole de la littérature franco-créolophone, Des Affirmes, 1976. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, y compris des linguistes, des sémioticiens, etc., qui ont peur de lire Franck Etienne parce qu'il est trop, dérangeant. Pour moi, Franck Etienne est comme le Emilio Gadda de la littérature italienne, l'afropastis de la rue des Merles. Personne n'a su comment le traduire pendant 50 ans. Bon. Alors, souvent, on parle de Franck Etienne sans le lire. Moi, j'ai eu la chance de le fréquenter, de discuter avec lui, et je lui ai envoyé ce manuscrit en Outre-mer des siècles. Il l'a lu, et les textes ont eu chez lui ce qu'on appelle le répondant. Comment tu traduis répondant en français, Jean-Claude? Il a eu un feedback, c'est ce qu'on dit en allemand. Bon, un feedback. Mettons la loi 101 de côté pendant 30 secondes. Et il a eu énormément. Je pense qu'il a été troublé par ce texte, et il m'a fait l'honneur de 10 peintures originales pour illustrer le bouquin. Tout ça pour dire que ça me permet de faire une petite parenthèse. J'appartiens à une tribu en littérature. C'est la première fois que je vais le dire en public, et je suis très content de le dire en présence de mon éditeur. J'appartiens à une tribu qui s'appelle l'amitié. Et la solidarité entre créateurs littéraires. Bon. Franck Etienne m'a fait cet honneur, je suis très content, et puis je suis passé à autre chose.
Ce rapport...
Mais je sais que je n'ai pas tout à fait répondu à ta question.
Non, non, c'est pas grave, depuis le début, mais c'est très bien. Ce rapport avec la langue et ce que tu appelles toi-même, déjà dans l'être urbain, le mal positionnement. Comment passes-tu d'une posture de mal positionnement à un travail sur le patrimoine?
Alors, comment passer d'un point de vue contestataire, finalement, et transiter par cette historicité qui s'introduit dans ta poésie sous le mode de la reconnaissance, de la contestation? Et pour moi, cette notion de patrimoine qui te vient dans ton travail, c'est un peu méchant ce que je fais de passer de ta poésie à ton travail de linguiste. Mais tout de même, il me semble que cette notion de patrimoine qui arrive, elle arrive peut-être sous le mode de l'urgence. Et pour moi, le 12 janvier donne peut-être cette urgence qui te remet dans ce questionnement patrimonial qui finalement est étranger à ton travail poétique.
D'accord. Mais je pense qu'il faut, il faut donner l'heure juste. Hein.
Vas-y.
Je pense que j'appartiens encore à ce courant de la littérature russe. Tant pis pour Daniel Feria qui est allé du côté de Tokyo. J'appartiens encore à ce courant de la littérature russe qu'on appelle les refuseniks, les contestataires. Bon, les contestataires, mais contestataires dans la langue finalement. Je veux dire, je suis pas un journaliste du journal de Montréal qui publie des banalités tous les jours. Bon, je prétends de manière d'autres diront narcissique, mais c'est peut-être légitime. Je prétends vouloir faire une œuvre poétique. Donc c'est un labeur. C'est un labeur, mais pas seulement un labeur, c'est un partage. L'écriture, pour moi, comme dit Bakhtine, est dialogique. Bon. Je suis parti d'une espèce de contestation d'un certain silence des appareils éditoriaux du Québec dans les années 80, fin des années 80, sur une production polyphonique et polymorphique, polysémantique au Québec qui était passée sous silence. Je suis parti de cette contestation du silence des appareils éditoriaux du Québec, appareils qui étaient sourds à ce que produisait l'autre. Marco Micconet n'était pas vraiment écouté, ce que faisait Fulvio Caccia n'était pas vraiment entendu, ce qu'apportait Anthony Phelps, ou etc. Alors, j'ai interpellé les appareils de légitimation du pouvoir symbolique et du pouvoir littéraire au Québec à travers des textes pour dire, mais ouvrons donc les fenêtres, ouvrons les yeux, ouvrons les oreilles, et puis, il faut dialoguer. Bon. Alors, je suis passé, si tu veux, de cette espèce d'interpellation critique un petit peu fréquent, comme on dit c'est en allemand, en créole, enfin, je sais plus.
Qu'est-ce qu'il y a avec l'allemand ?
Pour revenir à quelque chose de un petit peu plus pondéré, et je pense que tu essayes de faire un clin d'œil à ce bouquin que je vais publier dans quelques semaines sur l'aménagement linguistique en Haïti.
Oui. Oh oui.
Ce sera mon testament. Ce sera la dernière phrase que je dirai à mon pays natal. Une fois que ce livre paraîtra, je ne m'occuperai que de poésie. Bon. Franck Étienne prétend depuis 15 ans qu'il n'écrira plus de poésie.
Bon.
Alors, de quoi il s'agit? Je pense que je suis riche. Hein. Je suis riche d'avoir vécu l'une des périodes les plus exaltantes de l'histoire contemporaine du Québec. La francisation du Québec. Artisan, témoin, quelqu'un qui réfléchit avec d'autres, etc. Et ce parcours dans la dynamique de francisation du Québec a profondément marqué ma maturité intellectuelle et ma maturité de citoyen tout court. Et c'est sous cet angle bien précis que je le dis avec la plus grande humilité, que j'appartiens profondément au Québec. Et dans la mesure où ce parcours professionnel, intellectuel m'a enrichi, je me suis dit, ben, tiens, après le tremblement de terre, il faut que dans mon domaine de compétences, je donne un petit peu à cette île surréaliste et tellement attachante, je vais donner un petit peu de ce que j'ai appris. Alors, j'ai réuni autour de moi des linguistes, historiens, etc. Et j'ai produit un document qui paraîtra bientôt aux presses de l'Université d'État d'Haïti et aux éditions du Syndicat, un livre sur ce que l'on appelle l'aménagement des deux langues haïtiennes dans l'espace des relations entre l'État et les citoyens et dans le système éducatif haïtien. J'ai fait le bilan sur 50 ans du système éducatif haïtien sous l'angle très précis de la notion des droits linguistiques, ce que le Québec m'a appris, la notion des droits linguistiques. Bon. Alors, c'est ce testament, cet héritage que je vais laisser à mon île natale avant de m'en aller vers l'île sacrée qui s'appelle la poésie. Une fois pour toutes. Je ne reviendrai pas là-dessus.
Et tu vois par quel bout je reviens à l'aménagement.
Tout à fait.
Dans mon questionnement. Et donc, cette idée d'aménagement dans la langue que j'aimerais transporter, avec ta permission, bien sûr, vers son lieu propre du côté de la poésie comme aménagement et donc la poésie comme territoire. Ce sont tous ces textes finalement écrits un peu à la limite du sens qui font jouer ce sédimentaire de la poésie qui est peut-être la mémoire de la langue finalement qui se joue dans tes textes chaque fois. Et la page à ce moment devient le territoire à investir, ce lieu hospitalier qui peut être, comme tu disais une fois en entrevue autrefois, un espace neutre, un espace ouvert. Et c'est cette introduction de l'histoire en même temps qui vient donner un sédiment supplémentaire, si tu veux, à ces interstices dans la langue. Et le poème du décor, pour moi, justement, tient la promesse à la fois de la territorialité et de l'historicité de la langue. Comme si tu étais passé d'une conception très systémique de la langue à une conception plus historicisée, plus territorialisée, mais qui s'ouvre quand même sur la perte du sens. Alors, j'aimerais que tu lises le passage ici... le poème du décor qui en même temps en propose la thématique, pour qu'on puisse en parler, si tu permets.
C'est quand même éprouvant tout ce qu'elle dit. Hein. Je ne savais pas que j'avais écrit, j'avais dit autant de choses en écrivant de la poésie. Anthony, qu'est-ce que tu en penses? Elle a raison. Mais Joël n'est pas d'accord, il n'a rien dit. Il écoute. D'accord. En 1734, une négresse dont la beauté n'avait d'égal que sa passion amoureuse pour un colon blanc, une négresse a mis le feu à Montréal. Elle a été pendue haut et court, brûlée, etc. Et vous le savez mieux que moi, elle s'appelait Angélique. Et je l'ai rencontré, j'ai rencontré cette femme en 2008 à Barcelone. Et s'il vous plaît, ne protestez pas. Je vais lire un fragment du texte que j'ai soi-disant écrit pour Angélique, puisqu'elle est pré-texte. Mais c'est vrai que je l'ai rencontré en 2008. Angélique Tracé, ne sais comment découdre si longue nuit tramée sur ta mémoire au gibet de la honte à long haleine du Saint-Laurent. J'entends encore ton râle écorché, vif, étouffé mais mis à l'index désormais. Manchot épuisé par la crue de mes mots, je n'ai plus d'histoire illuminée à raconter. Seul mon poème allé à toi dédié en sa prose confuse se recueille humblement et s'agenouille sur ta langue en un ultime hommage. Il accompagne tes larmes meurtries dans l'entrelac des siècles pour l'or. Sur mes terres aristocrates, mon poème habite autre morne de tuf, de sève et d'argile, autre ronce, autre lexique gravé au front de quai. Et par mes crêtes broyeuses d'îles, je suis Nil coulant, nant halluciné dans tes vers. Mon vers charrie rêches allusions du livre sur ces pages froissées d'avoir trop cherché 14 heures à midi, tel subjonctif aux déclinaisons du délire. Mon vers entorse déphrasé porte grossesse paternelle, signe alisé par ces pluies archipels si féroces aux îles soulevant que même les trois turs au grand vent de démence demandent pardon au clou de l'affront fait par baiser de Judas au fils prêchant l'abstinence contre morsure. Contre morsure aux joues. La belle affaire, j'arrive d'un long périple que d'autres appellent. Ah, la belle affaire, la vie en rose. À ce compte, un lapsus est vite arrivé car Angélique, négresse flambée de passion interdite, tu habites l'effroi de Troie. Ce chemin de traverse, jadis emprunté par mon ombre, mais de grâce, vers moi passe la porte d'une houle naissante à terrain, comme à ma nuque. N'est que mes plaies d'argile, enfin à sceller.
Eh bien, je vais vous proposer tout de suite de passer aux questions pour laisser le dernier mot à la poésie. Si vous le voulez bien, passez au micro si vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup, Robert Verroy-Thoriol, de m'avoir accordé cet entretien.
Merci. Alors, tu vois, tu les as intimidés.
Oui, c'est pas moi. Hein.
Ils n'osent poser de questions. D'habitude, Joël est plus bavard.
Je peux quand même en dire quelque chose alors.
Probablement.
Sûrement. ce déplacement qu'on a vu entre les premiers textes et puis celui-ci, j'ai l'impression que finalement c'est plus cette question du mouvement qui est importante. Comme si il n'était plus tant question alors tout le combat de vice versa, tout le combat de 87. Il était question d'investir la culture dominante. Et cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt de la spatialiser, de la faire voyager, de lui proposer de nouveaux effets de distanciation et de lecture. Alors, la migrante, finalement, elle est dans ce mouvement qui refuse la closure. Et l'usage de la ponctuation est très intéressant, de la non-ponctuation, je devrais dire, d'un poème du Décours, parce que c'est un texte en prose, certes, mais qui n'est pas ponctué. Et donc, on a toujours... on ne sait pas quand la période s'arrête. Est-ce qu'il y a une période et quand est-ce qu'elle s'arrête? Et donc chaque fois, on est toujours pris dans les raies du texte, pour ainsi dire, et toujours pris dans ce mouvement du texte. On peut en mettre, mais justement, c'est au lecteur de faire ce travail de la ponctuation. C'est pas seulement que ce n'est pas facile, c'est que tous les lecteurs n'auront pas la même ponctuation, parce qu'il y a les phrases qui peuvent se terminer d'une manière et commencer d'une autre manière. C'est ça qui est passionnant, parce que finalement, le voyage du sens se fait dans cette hésitation de la closure, ou la poser ou ne pas la poser. Et donc je trouve ça vraiment... Ouais. C'est ce qui m'a frappé quand je l'ai lu la première fois, Poème du Décours, si tu rappelles cette conversation. Et même au niveau de sa mise en lecture, en fait, et même toi-même. Des fois, tu te reprends, tu reviens sur des passages parce que justement, il y a quelque chose d'inachevé. On avait parlé de l'inachèvement au début de notre entretien.
Oui. Je vais essayer de le dire de la manière la plus simple et la plus modeste possible. Je suis profondément christévien dans ma démarche. Je suis profondément christévien.
Pas chrétien, christévien.
Christévien, de Julia Kristeva, qui nourrit depuis plus de 20 ans mon cheminement, à la fois théorique et de poète. J'assume totalement que, à l'intérieur d'une grande aventure qui s'appelle la langue, il y a une espèce d'infinitude de la langue qui est la poésie et le projet esthétique de la poésie. Autrement dit, il peut y avoir un discours circonscrit, un texte circonscrit sur un objet, sur un sujet précis, mais l'aventure de la fiction poétique, l'aventure de l'écriture poétique, elle est infinitésimale, elle est infinie. La poésie est la seule langue, entre guillemets, qui peut mener la langue et qui peut mener le langage aussi loin que la musique. Autrement dit, dans une frontière dont on ne sait pas la frontière. Donc c'est cette infinitude de la poésie dans la théorie de Kristeva qui me séduit depuis un certain nombre d'années. De sorte que quand j'écris un texte, je suis parfaitement conscient que je l'écris autant qu'il m'écrit. Cet inconscient du texte dont parle Lacan, je pense que c'est pas une boutade, c'est vrai. Je sais pas où, quand j'ai commencé à écrire un poème du décor, je savais pas très bien qu'il allait me conduire, au vieux port, sur la tombe de Louis L, ou sur la tombe de Jean-Jacques Dessalines. Je savais pas, hein. Je suis porté par le texte, je l'écris autant qu'il m'écrit. Mais effectivement, il y a une rupture à partir de poèmes du décor, dans la mesure où, et je le dis une seconde fois, j'ai découvert, pour moi c'est peut-être la découverte du siècle, qu'on pouvait raconter une histoire en poésie. Hein, contrairement à ce que semblent vouloir dire nos fameux ateliers d'écriture poétique, où il faut toujours dire quelque chose.
Bon. Ça dépend.
En tout cas.
Ça dépend.
Mais une toute dernière chose. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Un texte, à partir du moment où un écrivain, un poète surtout, hein, prend le risque de confier un texte sous forme de livre à un lecteur, il faut qu'il assume que le lecteur va se réapproprier le texte.
Mais oui.
Il en fait ce qu'il veut. Et la réception polysémique, polyphonique appartient au lecteur. Elle n'appartient plus à celui qui produit le texte. Autrement dit, ce texte que je produis sans aucune ponctuation, sans aucune majuscule, etc., le lecteur, en se le réappropriant, inscrit lui-même ses rythmes d'écriture, ses rythmes de lecture, sa mémoire, son souffle. Il resémantise le texte finalement à partir de sa propre biographie.
C'est ce que je voulais dire. Très bien. Nous sommes d'accord.
Alors. Pour casser un peu le truc. Alors j'ai senti un ensemble de contradictions dans tes dits de linguiste d'abord. Et d'haïtien quand même, ensuite québécois. Alors voilà, vous avez beau vouloir renoncer à cette terre, patrie, qu'est Haïti, mais j'ai l'impression que vous êtes devenu poète directement en Haïti. Je veux dire, dans le centre même d'Haïti. Et je pense justement au petit conseil que Rainer Maria Rilke avait donné au jeune Xavier, qui, lui, voulant écrire et essayant justement de s'y évertuer, a envoyé son manuscrit au poète de Rainer, et lui, Rainer, de lui dire, écoutez, rentrez en vous-même, trouvez la profondeur qui vous fait écrire. Et jusque-là, vous étiez linguiste. Vous avez travaillé dans plusieurs grandes institutions pour la langue. Et alors là, le poète n'est pas que n'habite pas la langue dans sa grammaticalité. Il y a la langue du poète que Haïti, justement, vous a donnée. Évidemment, vous aurez beau vouloir la qualifier de pute, et c'est très très bien dit, je pense que c'est même ça honore votre poésie. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout à fait une honnêteté qui rendrait votre nature, que j'aime bien, naïve. Je vois pas l'émerveillement chez vous quand vous parlez de linguiste, quand vous parlez justement de votre technicité dans la langue, et je la retrouve cet émerveillement quand vous parlez de poésie. Et cette poésie justement vous a été donnée, je dis bien donnée, dans cette ligne de fuite, comme dirait Deleuze, à travers Haïti. Voilà.
Est-ce qu'il y a une question? Ou tu veux que je commente ton commentaire?
Ça peut être un commentaire, mais c'est pour dire que, voilà, tout simplement ce que vous avez entendu.
D'accord. Je te rassure, hein. Il n'y a aucun conflit d'identité chez moi. Alors là, vraiment pas. J'aurais tellement aimé avoir une anxiété, être un individu anxiogène. Oh, que mon identité de petit nègre, machin, etc. Non. Je suis désolé, il n'y a aucun. J'ai pas de conflit ou de métaphysique de l'identité chez moi. Alors là, pas du tout. Je veux dire, je suis très content d'être né dans mes pulsions parmi les génomes, les pulsions qui habitent mon génome. Je suis très content d'être né à Jacmel. J'aurais pu naître à Tokyo. J'assume de manière très sereine mes multiples racines, oui. Mes multiples identités, parce que elles confortent mon identité essentielle, qui est l'identité du poète.
Sauf que peut-être.
Cependant, je veux dire que le fait que dans ma poésie, on retrouve des traces, des cales, des traces de la traite négrière, etc. Pour moi, c'est évident que j'interpelle cette mémoire, mais pour la mettre à distance critique, puisque je refuse de me mettre à genoux devant une espèce de masturbation identitaire, de machin, d'haïtianerie, etc., etc. Bon, cela étant, c'est pas du tout par hasard que en 2010 que j'ai produit une œuvre en aménagement linguistique pour les deux langues haïtiennes, de oui. manière concomitante, transversale à mon travail en poésie.
Sauf que ce que vous appelez génome, en fait, votre lieu de naissance, votre vous-même, il est aussi composé d'un phénome, il est aussi composé justement d'un aspect phénotype. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que Berouette, vous êtes aussi un composant, donc vous êtes porteur d'un élément à partir d'un topos, à partir d'un lieu qui s'appelle Haïti et qui est aussi investi d'un ensemble de souvenirs. Et quand vous parlez d'Haïti, on sent que vous rentrez en dialogue avec l'autre. Justement, ce que vous avez reproché à l'autre, c'est-à-dire d'avoir ignoré la présence de l'autre dans un territoire qui s'appelle le Québec, tandis qu'on parle de francisation, vous l'avez justement reproché, ou vous risquez de le reprocher aux Haïtiens. C'est-à-dire, vous risquez d'avoir une posture d'étranger dans votre propre territoire, votre propre pays.
Oui,
mais... Or, je crains que ça ne soit une forme de posture, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est votre droit et je le partage comme poète.
J'avoue que je ne saisis pas très bien le...
Mais qui sommes-nous pour décider du lieu qui est propre à un poète? Qui sommes-nous pour décider de quel lieu est propre à un poète ou à n'importe quel individu?
Mais c'est-à-dire qu'une langue est toujours investie d'un territoire propre, d'une forme d'ipséité, enfin d'un soi intérieur qu'on apporte justement dans une langue, en sorte que cette langue même est déterritorialisée dans sa grammaticalité pour qu'elle porte justement une émotion, des souvenirs, des humeurs. Voilà, c'est peut-être ce que fait justement tous les grands poètes. Quand justement vous avez parlé tout à l'heure d'une poésie russe, ben voilà, quand on lit un poète russe, on sent tout de suite, on peut le sentir. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, mais on sent de quel port elle est attachée.
Ah,
cette poésie,
je viens de comprendre.
Mais je ne suis pas nationaliste, rassurez-vous.
Ouh là là.
C'était pour vous provoquer.
Ça m'a pris 15 bonnes minutes pour comprendre. Ah, tu souhaites que je revête la soutane de l'identité haïtienne. Alors là, tu seras déçu. Je ne revendique qu'une seule identité, la poésie.
Nous allons prendre d'autres questions parce que je pense que...
Oui. Mais là, c'est un commentaire, c'est pas vraiment une question. Mais en fait, je suis bien d'accord avec toi, que tu veux pas prendre le chapeau tout le temps puis le manteau de l'Haïti, surtout de l'Haïti victime, alors que l'Haïti est beaucoup d'autres choses que victime. Il y a énormément de côtés lumineux, chaleureux, humains, musical. Alors tu veux pas prendre le chemin de la victimisation, tu veux qu'on te laisse juste être poète.
Merci, c'est très juste. Merci.
Est-ce que nous prenons la question de Monsieur Giroux?
Même si tu risques d'être pris au piège de l'histoire, qui est en train
Non, mais attention, c'est dangereux. Tu es juge et parti.
Oui, c'est ça.
Tu es à la fois mon éditeur et un auditeur. Alors, ceux qui protestent, levez la main, s'il vous plaît.
Mais en réalité, je ne voulais pas parler de ça. Je voulais faire une sorte de témoignage de lecteur. C'est la première fois que je t'entends en public. Je sens une sorte de violence en toi que je ne connaissais pas. Et ça me rassure un peu. Et je sens aussi une créolité en toi dans la manière de lire tes textes. Dans la langue, dans les chuintements. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton dernier recueil, c'était justement la liberté que j'avais à lire et relire tes textes. Parce que c'est un recueil que j'ai lu peut-être 6 fois, 7 fois. Et je n'aime pas la façon dont tu lis tes textes. Il y a comme un court-circuit dans les réminiscences que j'ai des textes que je connais très bien. Alors, on revient à la langue. Mm-hmm. On est vraiment dans la langue. Et je suis avec toi dans la langue écrite. Qui, là, je suis vraiment très séduit.
Mm-hmm. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord aussi.
Je suis positivement touché. Et je le dis avec beaucoup d'amitié. Je suis positivement touché par ces remarques. Mm-hmm. C'est pas courant qu'un éditeur dise à son
ne lis plus jamais
le poète qu'il a publié. Ben écoute mon vieux, voilà ce que je pense que j'ai. Non, c'est pour moi c'est important et je sais pas quoi dire sinon merci. Hein. Et sauf que étant donné que je suis comme on dit en allemand un tilandeng, autrement dit un têtu et un fonceur, je vais apprendre à mieux lire.
Non mais
pour l'an prochain.
C'est une expérience très intéressante.
Je blague là-dessus. Ouais.
C'est une question très intéressante qui fait la démonstration éclatante que la posture de l'écriture et celle de la lecture n'est pas la même.
Tout à fait.
Quand il devient lecteur de ses textes,
voilà.
C'est autre chose. C'est très intéressant comme phénomène.
Mais l'élément violence dont tu parles, je pense que j'en ai pris conscience il y a un an. J'ai proposé à une très bonne amie à moi, une amie d'enfance, de lire des textes. Et puis elle m'a dit, écoute mon vieux, je lis des textes d'une personne que je ne connais pas. Comment c'est-il qu'il y ait autant de violence dans tes textes? Violence dans les mots, violence dans le rythme, violence dans une certaine vision des choses, etc. J'avoue que je suis resté pantois, je ne sais pas très bien, jusqu'à présent, quoi répondre à ce constat. C'est la seconde personne qui me le dit, et je pense que je vais me faire psychanalyser, et je serai en mesure de t'en parler dans trois mois.
Mais en même temps, ça rend le rapport avec Frère Étienne aussi très, très... Ça révèle être autre chose du rapport avec Frère Étienne, je trouve, cette question-là de la violence. Parce qu'effectivement, dans des textes aussi stylisés, on peut être surpris, justement, qu'elle existe, mais peut-être que cette retenue est justement celle d'une violence contenue.
Oui, c'est juste... Enfin, je comprends, la petite boutade mise à part, je comprends que dans une séquence de textes où je parle de la... du commerce triangulaire entre l'Afrique et les Antilles, la traite, lorsque je parle des douceurs des cales, des voiliers négriers, des douceurs de ce qui se passe qui est tellement agréable dans les cales des bateaux négriers, d'accord, je comprends qu'il puisse y avoir à mon insu de la violence. Il faut que je réfléchisse.
Oui. C'est quelque chose qu'il faudrait.
Oui, mais qu'il y ait dans la chevelure or d'Angélique, qu'il y ait le feu, que je parle du feu qui embrase la crinière d'Angélique, qu'il y ait des termes de violence, je pense que c'est aussi normal. Mais il me semble qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond à aller chercher à travers cette remarque qui me semble tout à fait pertinente. Hein? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui me regardes de regard perçant.
Est-ce que nous prenons une dernière question?
Il a encore envie de dire... tu veux que je sois un poète patriote? Je ne serai jamais un poète patriote. Je serai un poète refusnik dissident.
Bien. Vous défendre, je vais vous dire que je trouve que vous lisez au risque de déplaire à mes frères, grands frères poètes, je trouve que vous lisez avec vous-même, lire, c'est entendre la voix de l'auteur nous parler, et voilà que ce soir nous avons eu à la fois les textes et l'auteur nous parler, et moi je vous trouve bien, et je partais avec votre belle voix.
Merci, je te signale que mon éditeur n'est pas de ton avis, je te préviens. Hein? Non, mais voilà,
allez-y, je vous en prie. C'est parce que nous enregistrons.
Est-ce que finalement, le lecteur, il a raison et le poète, il a raison, mais peut-être qu'ils ne se rencontreront jamais.
Ouais.
Et c'est pourquoi qu'il y a des critiques et des profs de littérature. Mais sinon, il y a deux espaces de liberté qui se joignent. Quel est ton avis dessus?
À partir du moment où le poète ou le romancier prend le risque de confier son œuvre à un lecteur ou à un lectorat potentiel, il est l'homme de tous les risques. Il faut qu'il apprenne à écouter. Pas forcément être d'accord avec tout ce qu'il va se dire, mais c'est à ce moment-là que la littérature devient vraiment, au sens de Bakhtine, dialogiste. Elle se recrée à partir de l'horizon de réception du lectorat. Et c'est là que l'aventure commence, finalement. Oui.
Eh bien, je vais... Ah, allez-y, oui, bon, on va pas... On n'est pas une question...
Je te préviens, dis pas de méchanceté, hein, franchement. Oh.
Ne t'inquiète pas, c'est simplement pour te dire merci. Et quand même témoigner de cette aventure intellectuelle à laquelle j'ai participé... Puisque de nombreux textes ont été écrits sur nos tables de café, et soit à la maison, soit dans le bistrot. Ce que je voudrais dire essentiellement, c'est que cette aventure intellectuelle, cette aventure poétique, elle est émouvante, parce qu'elle participe d'une double rupture, en fait. Et quand j'entends parler de ces deux îles que tu opposes, elle participe d'une aventure intellectuelle ici au Québec, où nous avons tenté, si tu veux, d'infléchir, de faire une place à des voix qui très traditionnellement n'étaient pas entendues, alors qu'elles étaient présentes. Hein. C'est le sens de, probablement, vous en avez parlé au début, de tes textes sur la littérature migrante. Après, la place qui avait été prise par Haïti littéraire et par nos aînés, hein, dans les années 60 au Québec, bon, est arrivée une nouvelle génération qui a voulu dire que nous avions un sillon, nous avions un sens à donner à notre présence ici. Et parallèlement, il y avait des voix entendues de là-bas. Et cette aventure, est, non pas d'un déchirement, mais d'une double appartenance, voire d'une triple appartenance, elle était... emblématique de ce siècle, hein, de la fin du XXe siècle. Hein. Je crois que c'était ça notre travail ici, d'une part. En ce qui concerne ton propre travail, moi, ce qui m'a toujours frappé, en fait, c'est une espèce de fétichisation de la langue. Mm-hmm. C'est une langue fétiche, une langue devenue son propre objet, devenue son propre sujet même. Hein. Au point où, avec beaucoup de... la première violence, c'est cette violence-là. C'est-à-dire de rendre la langue presque détachée de son propos. C'est-à-dire, un peu comme dans la musique contemporaine, la langue, elle est cannibalisée par le poète. Elle devient autre chose qu'une langue. Et ça, c'est la première violence, je crois. Quant à la seconde, c'est sur le plan... de ce que ça provoque chez certains critiques au Québec, on en a parlé très très souvent, cette non-réception par moment, hein, cette violence en miroir également, hein, il y a eu quelques articles qui ont paru sur ce thème-là, soit une langue trop belle et trop exaltée, soit alors là quelque chose de l'ordre de la logomachie, d'une langue qui est en rupture avec son temps. Donc dans ce travail-là, je sens ces pôles divers qui sont...
à la fois marquée par le structuralisme des années 60, très fortement, des citations d'ailleurs, Kristeva, etc. On pourrait en ajouter d'autres. Et comme si la linguistique était la discipline reine de ce temps. Hein. Et actuellement, tu as évolué bien évidemment vers d'autres pistes. Ce que Stéphane a bien souligné sur le plan de l'historicité, sur le plan également d'un territoire plus intime et plus précis. Mais je crois que ce que j'entends aujourd'hui, c'est que depuis le 12 janvier, hein, c'était une de tes interventions, que devient, hein, depuis ce traumatisme, cette proposition de dire, est-ce qu'on est encore capable de dire le réel, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose, comme disait Adorno, d'insupportable de dire la poésie après le 12 janvier, ou après ce qui se passe aujourd'hui, après tout ce qui se passe, non pas dans la victimisation, mais dans la souffrance et dans la douleur. Est-ce que la langue, naguère fétichisée et exaltée, est encore capable, hein, de représenter ce qui se passe, c'est-à-dire une langue post-apocalyptique. Hein, voilà, ça serait ma question. Est-ce que, parce qu'il faut en poser une question. Hein, bon, voilà. Est-ce que la langue est encore capable d'être dans sa version post-structuraliste, hein, post-apocalyptique en ce qui concerne Haïti aujourd'hui, capable de faire poésie, capable, c'est-à-dire de faire acte, de faire présence. Voilà.
C'est très... Oui, je veux ajouter quelque chose.
Oui, j'ai... Mon sentiment le plus clair là-dessus, c'est que la poésie, après le 12 janvier 2010, est encore une fois en mesure de mesurer son infinitude, sa difficulté à nommer le réel. Et sa difficulté à prophétiser ou à solutionner, entre guillemets, quoi que ce soit. La poésie peut interpeller un désir de dire, et c'est déjà beaucoup. Je suis très très loin de la poésie militante, de la poésie réalisme, du réalisme socialiste ou du réalisme merveilleux, d'une certaine littérature haïtienne. La poésie est encore en mesure de dire son infinitude, ses inquiétudes et ses propres failles, aussi sismiques que les failles du tremblement de terre du 12 janvier.
Il y a quelque chose quand même dans le rapport qui a changé, parce que ce n'est pas pareil, en tout cas c'est une discussion, mais à mon avis ce n'est pas tout à fait pareil de parler d'un lieu qui n'est pas là, et là on est dans le rapport de la distance, que de parler d'un lieu qui n'existe plus. Il me semble qu'il y a une différence quand même qui est fondamentale. Et peut-être la réponse n'est pas là encore. On ne sait pas encore comment finalement créer à partir de ce lieu-là, qui n'est plus seulement le lieu qui n'a pas de présence, mais un lieu qui, dans beaucoup de cas, n'existe plus.
Non, mais moi j'avoue modestement que je n'ai pas de réponse
non, c'est une question
convaincante ou concluante là-dessus. Non. Pas du tout.
Eh bien, nous remercions Robert Berouet-Auriol sur sa dernière parole.